montrer aux étudiants que leur métier plus tard, ce sera un métier où la communication sera très importante dans leur relation avec le patient.
Bienvenue dans la troisième saison de Altitude, le podcast des facultés de l'Université catholique de Lille qui s'intéresse au parcours des anciens étudiants. Je m'appelle Ismaël Othmani, étudiant en Master 2 de journalisme à la Faculté de Lettres et Sciences Humaines, et aujourd'hui j'échange avec Géraldine Domergue. Elle, son parcours commence en 1997 lorsqu'elle rejoint la FMMS pour un diplôme d'infirmière. Après plus de 10 ans au sein du même établissement et l'obtention d'un diplôme de cadre de santé, elle nous partage sa passion à travers son parcours inspirant. Tout ça, c'est dans le 9e épisode de la 3e saison de Altitude. Bonjour Géraldine, comment allez-vous ?
Très bien, bonjour Ismaël.
Bah écoutez, c'est merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Altitude. On aura beaucoup de choses à évoquer aujourd'hui. Alors on va commencer puisque aujourd'hui vous êtes donc cadre de santé pédagogique en IFCI, donc école de puéricultrice. Alors est-ce que vous pouvez déjà commencer à nous expliquer un petit peu ce métier ? Quelles sont vos fonctions pour les gens qui ne sont pas familiers avec cette profession ?
Ok. Alors donc, je suis formatrice pédagogique en IFSI, donc c'est une école, un institut de formation en soins infirmiers, pour lequel j'ai quelques unités d'enseignement, et aussi en école de puéricultrice, qui est une formation qui se réalise après avoir eu le diplôme d'infirmier d'État.
D'accord.
Donc, pour l'instant, je travaille entre les deux formations. En IFSI, je travaille surtout sur les soins éducatifs et préventifs.
D'accord.
Et on travaille d'ailleurs avec la fac de médecine et maïeutique, les kinés. On travaille sur le service sanitaire. Donc,
d'accord,
je suis responsable du service sanitaire en deuxième année.
On reviendra justement après sur toutes les particularités de la FMMS. Mais avant, on va aussi parler des particularités de votre CV, puisque une des plus grosses particularités de votre CV, c'est que vous avez passé presque tout votre cursus dans les facultés de l'Université catholique de Lille, que ça soit la FMMS ou même dès 1988, parce que c'est là où vous passez votre diplôme d'État infirmière, donc ici. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est en 2013, donc vous allez passer un master professionnel donc en sciences humaines et sociales, avec une mention en action et activité de la santé du social et aussi une spécialité en handicap et dépendance. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des souvenirs que vous avez de cette époque-là et puis de ce master ?
Alors, donc, ce master, je l'ai fait une année après avoir fait l'école des cadres de santé.
D'accord.
Que l'on est obligé d'avoir pour pouvoir être enseigné en pédagogie, en école d'infirmière.
D'accord.
Et puis en école de puéricultrice. Les souvenirs que j'ai sur les bancs d'école, vous voulez ?
Oui, les souvenirs sur les bancs d'école. Et puis même si vous avez des... vos souvenirs globaux, c'est-à-dire de quoi vous vous rappelez de ce master ?
Alors, ce dont je me rappelle, c'est d'avoir passé beaucoup de temps pour travailler sur le mémoire, qui était vraiment dirigé vers la motivation des étudiants et qui était vraiment l'origine de mon travail.
D'accord.
sur cette volonté, en fait, d'intégrer les étudiants dans leur motivation pour les études.
D'accord.
Alors pourquoi le handicap ? Parce que je travaillais aussi sur une unité d'enseignement à destination des étudiants de première année sur le handicap.
D'accord.
Et c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment intéressée.
D'accord. Justement, on reviendra sur ce choix-là parce que je trouve qu'il est passionnant et puis il en dit beaucoup sur votre cursus et sur les choses que vous avez faites tout au long de votre carrière. Mais pour revenir aussi, je parlais des particularités de la FMMS. Je voulais vous en toucher un mot pour que vous puissiez expliquer cette partie-là qui me paraît importante. Donc la FMMS, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est faculté médecine, maïeutique, sciences de la santé, et dont une des principales caractéristiques, c'est d'être la seule faculté de médecine maïeutique, sciences de la santé associative de France. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire et pourquoi cette particularité a beaucoup de sens ?
Donc, les facs de médecine maïeutique et sciences de la santé qui reprend en fait des écoles que nous avons sur le campus d'Humanicité, puisqu'en fait maintenant les facs de MMS, il y a le campus de Vauban qui regroupe donc médecine maïeutique.
D'accord.
Et il y a le campus Humanicité où nous avons les quatre écoles, donc l'école des cadres de santé, l'école d'infirmières, celle de puéricultrice et l'école d'aide-soignante.
D'accord.
Donc aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés pour pouvoir avoir une grande université, d'accord, en fait, et accueillir. Alors nous, sur la fac du campus Humanicité, on accueille à peu près 550 étudiants et élèves, puisqu'en fait, les aides-soignants, on les appelle encore des élèves.
D'accord. Et une des notions importantes aussi, justement, vous les appelez des élèves, mais c'est aussi de ce que j'ai cru comprendre, et vous avez peut-être beaucoup mieux l'expliquer, une des notions importantes que vous leur inculquez, c'est le dialogue. Et alors, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cette notion-là, puisque je sais que c'est une des particularités aussi, que ça soit dans la médecine maïeutique ou en général dans ce que vous faites. Quelle est cette part de dialogue qu'est-ce que vous inculquez aux élèves?
D'accord. Est-ce que vous parlez de la relation soignant-soigné
C'est ça. Ou en général, comment vous interprétez le dialogue? Enfin, en tout cas, ouais, c'est ça, que ce soit la relation soignée-soignant ou même avec les étudiants. Ouais.
Tout à fait. Alors déjà, pour montrer aux étudiants que leur métier plus tard, ce sera un métier où la communication sera très importante dans leur relation avec le patient. Ouais. Déjà, nous, au sein de l'université, on commence déjà à créer des groupes où les étudiants travaillent en équipe, où ils se concertent, où ils se respectent. Le premier semestre en école d'infirmière, par exemple, c'est un semestre où les grandes valeurs sont prônées, d'accord, les valeurs soignantes, les valeurs de respect, de dignité, où finalement ce métier en a besoin et va le colporter, et va le faire vivre aussi tout au long de sa vie professionnelle, en fait.
C'est ça. Bah justement, pour cet étudiant qui vous écoute et qui peut peut-être se poser la question de quelle mentalité il doit avoir avant d'appréhender ou en tout cas de commencer ce métier, qu'est-ce qui est important, sur quoi il doit travailler? Vous parlez justement de toutes ces valeurs-là, mais en général, quelles sont les qualités qui sont intéressantes pour pouvoir exercer un métier comme le vôtre?
Alors déjà, les travailler, c'est quelque chose, mais déjà, en avoir un socle, c'est déjà quelque chose d'important. Mmh. Et dans ce socle qui est important, c'est effectivement l'altruisme, le don, c'est vraiment important. Après, ça se travaille. On travaille aussi à l'école le fait de placer des barrières pour pouvoir accompagner. Ouais. Pouvoir continuer à soigner. Et puis, alors moi, ça fait longtemps que je travaille, mais j'ai exercé ce métier aussi sur le terrain. Mais voilà, aujourd'hui, tout ce qui concerne les valeurs qui ne sont pas curatives ni préventives, mais plutôt de palliatives, c'est quelque chose de récent et où vraiment la communication et le soin relationnel sont au centre de cette... si je puis dire, de cette science palliative, en fait.
Et qui évolue constamment. Et puis, c'est intéressant aussi de revenir sur ça, parce que je lisais plus tôt, vous avez fait une grosse partie de votre cursus donc, ici, et que ce soit quand vous étiez étudiante à la FMMS ou même dans votre profession aujourd'hui, vous avez eu toujours un rapport étroit avec les étudiants. Et ça, depuis donc un moment. Est-ce que vous avez vu des différences sur les 10 dernières années, sur les 15 dernières années, dans le comportement ou peut-être dans la manière d'appréhender le métier ces dernières années?
Oui, alors la génération, d'ailleurs j'ai fait un mémoire là-dessus sur l'école des cadres, d'accord, de santé, sur cette génération, à l'époque c'était Y, maintenant on est à la Z, mais sur cette génération qui avait besoin aussi pour subvenir à ses besoins et pouvoir continuer à exercer son métier, à travailler un peu à côté. D'accord. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert, enfin que moi j'ai découvert tout au long de mes années. La différence aussi aujourd'hui, c'est que la Covid est passée par là. Donc, du coup, les étudiants arrivent dans un service où, vous savez que c'est un service, c'est une formation en alternance, donc avec des cours et avec des pratiques en stage. Et ces pratiques en stage doivent être aussi accompagnées par des tuteurs. Et ces tuteurs ont vécu la Covid, vécu les restrictions, ont vécu tout ça, avec aujourd'hui certainement un manque dans les services de professionnels, donc un repère qui doit être qui n'est pas aussi évident qu'auparavant pour les étudiants, mais que ce soit étudiant ou élève aide-soignant, de toute façon.
Très intéressant que vous parliez de cette crise de la Covid, parce que forcément, on peut difficilement imaginer un secteur qui était plus impacté que le vôtre, ou même des études qui ont été plus impactées que les vôtres. Est-ce que, au-delà de ce que vous avez expliqué, il y a eu aussi une réadaptation peut-être des cours ou de la manière avec laquelle vous avez dû former les étudiants suite à cette crise qui a été compliquée à vivre?
Oui, alors déjà, du jour au lendemain, on a dû laisser l'école vide et puis partir avec nos ordinateurs chez nous. nous et faire du télétravail. Ça aussi, ça n'a pas été facile de faire passer des valeurs face à cet écran, de les accompagner où on a perçu vraiment des craintes, des angoisses par rapport aux étudiants. D'abord, nous ne savions pas ce que le lendemain serait. Et on a dû, nous, accompagner aussi ces étudiants. Alors effectivement, aujourd'hui, ce sont des étudiants qui sont peut-être un peu plus altruistes et qui ont un peu plus besoin de profiter de la vie parce qu'ils ont vécu aussi pendant leur cursus à l'école. Et donc, ils étaient en seconde, première, terminale. C'est visio aussi. Et voilà... remettre, je dirais, presque du bon sens dans leurs études.
Et est-ce que, vous l'avez dit, et ça je pense que c'est très intéressant, puis c'est évident aussi de faire passer ces valeurs-là quand on est en télétravail dans un métier qui est autant porté sur le dialogue, sur la communication et puis sur la relation avec la personne physiquement, ça doit être compliqué de faire comprendre à ces étudiants-là, à ces jeunes qui veulent se former, comment affronter le métier. Alors est-ce que, au retour donc à la vie normale, entre guillemets, en tout cas en présentiel, etc., est-ce que vous avez dû repenser aussi un petit peu à l'éventualité où ces jeunes-là se retrouveraient dans une situation semblable, comment un petit peu les former pour être préparés à affronter une situation comme ça ?
Alors, on a la chance d'avoir des outils qui nous permettent justement de revenir sur les pratiques des étudiants, d'accord, qui s'appellent des analyses de pratiques, qu'on a fait pendant le confinement, qu'on a fait en visio, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment un outil qui est important, où l'étudiant, en fait, nous explique pourquoi il fait telle ou telle chose et comment il l'organise et quels sont finalement les fondements de cette action, etc. Donc là, on repasse par toutes les valeurs. Et ça, c'est vraiment important de permettre à l'étudiant de se rendre compte aussi. Parce qu'il y a quelque chose qui est important aussi chez l'étudiant et entre autres chez les étudiants aujourd'hui, c'est l'estime de soi. Qui n'est pas facile quand on soigne des patients où finalement le don de soi est plus facile que de recevoir. Et c'est important aussi pour un étudiant de recevoir pour avoir une estime de soi qui lui permet à lui de continuer à apprendre, de continuer à avancer. Et parce que aujourd'hui, dans les services, il y a peu de monde aussi, ou moins de monde qu'auparavant pour encadrer. Et donc là, on a toute notre place justement pour accueillir les étudiants dans nos bureaux qui nous expliquent leur vie à l'hôpital et leur vie même étudiante où on a un contact pour essayer de recréer des valeurs, de repositionner, de leur permettre de prendre de la distance par rapport justement à ce qu'ils vivent sur le terrain en fait.
Et d'autant plus que alors c'est pas une discipline qui est apparue puisque vous saviez que ça existe depuis un moment, mais peut-être que au niveau public en tout cas ça s'est rendu un peu plus médiatique, on en parle un peu plus de cette santé mentale et de l'importance de la santé mentale. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi peut-être vous chez ces jeunes là qui sont peut-être un peu plus conscients de l'importance de la santé mentale qui serait tout aussi importante ou du moins une partie intégrante aussi de notre santé?
Alors oui, on le ressent, mais surtout on préserve leur santé mentale justement. Et ça passe par des échanges, ça passe par des façons d'expliquer ce qu'ils vivent dans les services auprès du patient justement pour préserver leur santé mentale et faire en sorte que les professionnels qu'on forme aujourd'hui, ce soient encore des professionnels demain sur le terrain en fait.
Et est-ce que c'est une des grosses différences que vous avez ressenties par rapport peut-être à ce que vous avez fait vous donc il y a quelques années et aujourd'hui qu'il y a eu cette volonté de protéger l'étudiant, en tout cas de protéger peut-être plus la santé mentale de l'étudiant qu'auparavant?
Oui, c'est quelque chose qu'on voit de plus sur le terrain parce que ce sont des étudiants qui sont certainement plus fragiles aujourd'hui. Alors fragiles, à cause de ce qu'ils ont vécu dans leurs études à cause du confinement. Plus fragiles aussi parce que, je vous dis, ce sont des étudiants qui doivent survenir à leurs besoins, donc qui doivent travailler. Ils ont besoin de... parfois, ils ont encore leurs parents. Et puis, n'oublions pas aussi que les étudiants peuvent venir de loin. Nous, on a des étudiants chez nous qui viennent de Bordeaux, de Toulouse, de Marseille, et éloignés de leur famille, c'est très difficile aussi d'avancer. Ouais. Donc, subvenir à ses besoins en étant dans un appartement sur ouais. l'île pour pouvoir manger correctement et surtout pour garder le lien aussi avec les parents. Ça, c'est vraiment important de préserver cette santé mentale, justement, oui.
Est-ce que c'est une des qualités les plus importantes pour pouvoir exercer ce métier, d'être patient, peut-être d'être aussi réaliste et savoir que c'est aussi un métier de passion ? Oui. Puisque être autant altruiste et être toujours dans le don, ça demande quand même une réelle volonté de vouloir le faire. Hein. Donc, est-ce que vous pensez que c'est justement une des qualités les plus importantes que...
Je pense que, voilà, même en étant cadre de santé pédagogique, je suis aussi soignante.
Oui, bonjour.
Donc, j'ai quand même ce petit fond de commerce, si je puis dire, qui permet de peut-être de comprendre justement l'étudiant qui vit ce que moi j'ai vécu il y a 10-15 ans et qui... en fait, je pense que l'avantage, c'est la compréhension de ce que vit l'étudiant. Et donc, alors sans se mettre à sa place, parce qu'on ne peut pas se mettre à leur place, mais on peut débriefer avec eux. Et ces analyses de pratique, justement, permettent aussi à l'étudiant, finalement, de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls à vivre ça et que demain, toutes les armes qu'ils vont avoir pendant leurs études vont leur servir sur le terrain, en fait.
Et le terrain, c'est une partie intégrante. Donc, c'est-à-dire que même pendant leur cursus scolaire, ils vont très vite devoir s'affronter au terrain ?
Ah oui, oui. Dès le premier semestre, en fait. Ils ont un stage de 5 semaines tout de suite sur le terrain.
Okay.
Alors, on leur donne les bases, d'accord ?
On
ne les lâche pas comme ça. On leur donne les possibilités de s'en sortir sur le terrain. Et puis après, ils vont sur le terrain. Alors, je parle des étudiants soins infirmiers, là. Maintenant, les étudiants, les élèves aides-soignants, pareil, ils sont aussi sur le terrain. La formation, la richesse de la formation en alternance, c'est aussi de mêler la clinique sur le terrain et la théorie en institut, en fait.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers où on revient souvent sur le fait qu'on dit souvent que la meilleure des expériences est le stage, puisque on se confronte au terrain. Mais est-ce que finalement, ça serait peut-être pas la profession où c'est le plus parlant et que... Alors, vous expliquez, vous leur donnez des bases, bien sûr, vous ne les laissez pas comme ça, dans la nature, à découvrir le métier comme ça, mais d'une certaine manière, un peu, puisque pour comprendre cette volonté d'être dans l'altruisme, etc., est-ce qu'ils ont justement besoin de comprendre comment réagir sur un terrain qui est souvent aléatoire, on ne peut pas imaginer ce qui va se passer.
Ah oui, la grande capacité d'adaptation de l'étudiant est vraiment importante. Ça, s'il y a bien un trait de caractère aussi, alors il va l'acquérir petit à petit, cette adaptation, l'étudiant, mais c'est vraiment important dans notre cursus, en étant soignant, de s'adapter. Alors, s'adapter aux patients, s'adapter à l'évolution, s'adapter au traitement, s'adapter justement à toujours connaître la responsabilité que l'on a en fonction des connaissances. Vous savez, quand on parle de la formation professionnelle en continu, là, c'est vraiment, vraiment important de permettre aux étudiants et d'ailleurs de les initier à ça pour qu'ils puissent tout au long de leur vie se former pour ne pas devenir obsolète, tout simplement.
Est-ce que vous l'avez ressenti, vous, à l'époque, que la première... Est-ce que vous avez un souvenir, peut-être, de votre première expérience sur le terrain ? Parce qu'on peut penser qu'on sait à quoi s'attendre, mais quand on y est vraiment pour la première fois, quel sentiment vous aviez eu à l'époque ?
Ah oui, alors, je ne vais pas vous raconter mon premier stage. Encore que j'étais en unité fermée psychiatrique, et c'est vrai que c'était quelque chose qui était plutôt, moi, traumatisant. Ça a été compliqué, j'avais besoin de comprendre les choses et à cette époque-là, j'ai appris sur le terrain. Quoi. La formation en alternance a aussi cette richesse de ramener en institut les expériences du terrain pour pouvoir les débriefer et pouvoir obtenir peut-être des idées divergentes de la part des étudiants qui... finalement, apprennent des autres aussi. Aujourd'hui, on apprend des autres. On apprend de ses erreurs, mais on apprend aussi des autres. Donc, c'est important, ça.
Et cet étudiant, justement, quand il arrive généralement, est-ce qu'il est plutôt fixé sur le domaine dans lequel il a envie d'évoluer ou vous avez plutôt des étudiants qui sont curieux et qui ont envie de tout découvrir ?
Alors, c'est très, très variable, en fait. Mm-hmm. On a des étudiants qui ont déjà réalisé des stages. D'accord. Donc, ils savent okay. pourquoi ils sont là. Ils savent ce qu'ils veulent. Et peut-être même, parce qu'après, quand je parle des étudiants en soins infirmiers, on a des possibilités de... Bah voilà, par exemple, l'école des cadres mm-hmm. de santé, c'est une possibilité d'évoluer. La deuxième, c'est puéricultrice, l'école de puéricultrice. Mais on a aussi infirmière anesthésiste ou alors infirmier au bloc opératoire.
D'accord.
Et généralement, au cours du cursus, au cours des 3 années de formation mm-hmm. des étudiants en soins infirmiers, ils arrivent à sentir un petit peu les terrains pour lesquels ils sont faits. Mmh. Et ils ont envie d'évoluer. Mmh. Et ceux pour lesquels, au contraire, c'est très compliqué ouais. Par rapport à leur vécu, par rapport à leur capacité justement à prendre du recul, mmh. etc.
Bah, on parlait du terrain plus tôt. On peut imaginer que pour certains, c'est sur le terrain qu'ils découvrent réellement ce pourquoi ils sont faits et ce pourquoi ils auront un peu plus de mal, en tout cas ce qu'ils auront du mal à affronter, ça c'est sûr.
Ouais. Ouais. Et il y en a malheureusement qui arrêtent leur formation parce qu'ils se sont trompés, quoi.
Oui, bien sûr. Ouais. Ouais.
Donc ça, c'est possible aussi. Il y en a, on a avec les méthodes de recrutement aujourd'hui qui est Parcoursup, dont mmh. vous avez dû entendre mmh. parler, parfois on a des étudiants qui se sont trompés et voilà. Le stage permet aussi de déclencher oui, un sûr. Arrêt de formation.
Bien sûr. Et peut-être, alors, on parle souvent de ces étudiants qui ont déjà fait des stages ou qui sont peut-être à l'approche d'un master, mais on peut penser aussi aux étudiants qui sont loin de cette étape-là, peut-être qu'ils passent leur bac, peut-être qu'ils sont en train de réfléchir à tenter leur première année en licence à la FMMS, donc dans des domaines différents. Alors, vu qu'ils ne peuvent pas encore avoir d'expérience sur le terrain, quel conseil vous auriez pour un étudiant pour pouvoir, depuis chez lui, déjà, juste par volonté d'être curieux et de comprendre un peu le métier, sur quoi il devrait se pencher, où est-ce qu'il pourrait se renseigner un petit peu pour être prêt à affronter le terrain, ou en tout cas, du moins, à être prêt pour son premier jour?
Alors, je pense que sans aller en stage, en suivant une infirmière libérale ou autre, approcher la personne âgée en EHPAD, dans une organisation plus d'animation ou de BAFA, vous savez, oui. L'organisation, ça peut être aussi quelque chose qui permet de connaître ses limites dans l'accompagnement, dans l'acceptation justement d'avoir des enfants ou des personnes pour qui ça peut être compliqué, mais où il faut mettre un petit peu de grain de patience ou de prise de recul, etc., etc. Je pense que ça peut être quelque chose de bien. Et puis, c'est toujours intéressant, quand on rentre en formation comme ça, d'avoir des images plein la tête et de se dire, tiens, ah bah oui, je suis en train d'apprendre ça. Et en fait, je me souviens, telle personne avait telle chose. Ah bah, c'était pour ça qu'elle était dans son fauteuil roulant ou autre, etc.
Et c'est pour ça que parfois, il y a des personnes qui se destinent pas du tout au métier, ou en tout cas qui, dans leur vie, ne pensent pas du tout pouvoir évoluer dans un métier comme ça. Et puis, sur un coup de tête, ils décident de changer de carrière et ils se rendent compte que plein de qualités qu'ils avaient, dont vous parlez, l'empathie, etc., leur permettent d'évoluer dans un métier comme ça. Donc, au final, c'est ce que vous dites, il y a beaucoup de variables.
Tout à fait, tout à fait. Et puis, dernière chose, on a aussi des étudiants, on pressent qu'il y a quelque chose, mais il faut le motiver, il faut aller le chercher, il faut pousser un petit peu l'étudiant et puis lui laisser le temps aussi de le trouver par lui-même et d'y arriver. Parfois, on a des étudiants qui font des pauses pendant un an parce qu'ils ont besoin de se retrouver eux pour pouvoir retourner sur le terrain. Et voilà, et on respecte tout à fait ça. Bonheur des étudiants permet le bonheur des patients. Donc
Et puis, c'est un métier où il faut être épanoui pour pouvoir permettre aux gens d'être épanouis, j'imagine.
Oui, tout à fait. C'est un métier où l'authenticité... on ne peut pas faire semblant. Quoi.
Oui, ça c'est clair. Ça, c'est une belle phrase. On ne peut pas faire semblant. Justement, on va conclure sur quelque chose d'important. Alors, on a beaucoup parlé de ces étudiants qui aimeraient s'orienter vers un domaine comme ça. Mais peut-être plus généralement, pour n'importe quel étudiant qui nous écoute, peu importe son domaine, vous qui avez cette habitude-là de former, d'évoluer avec des étudiants, etc., et puis qui avez un cursus très intéressant, quel conseil vous avez pour un étudiant en 2023, à l'approche du mois de septembre, pour ceux qui feront leur rentrée dans quelques mois maintenant, mais en tout cas pour ceux qui feront leur entrée bientôt et pour ceux qui ont un mémoire de fin d'études en approche, comment un étudiant peut préparer un petit peu sa santé physique, mentale, etc. cette année.
Alors, j'ai presque envie de dire la motivation, c'est quelque chose qui est plus important. La motivation, on peut aller la chercher dans justement la rencontre d'une personne qui fait ce métier-là et essayer de lui poser les questions pour savoir si c'est vraiment ce vers quoi on est attiré, si ça correspond vraiment à soi. Et après, la prise de recul, je vois pas. Pas plus de choses que ça, je réfléchis. Vous savez, un métier, on le fait toute sa vie. Ouais. Si on est passionné, c'est plus important. Ouais. Les pieds sont plus légers pour aller au travail. Et encore que, voilà, quand on est passionné, c'est pas un travail, quoi. Ouais. C'est vraiment... Alors, je peux pas dire que ce soit une vocation, hein, parce que ça, c'est fini le temps de la vocation, mais c'est quand même important de... Et puis surtout, je pense aussi qu'il est important de pouvoir choisir ce que l'on veut. Et si on veut choisir, eh ben, il faut se donner les moyens. Mmh. Et pour se donner les moyens, eh ben, il faut aller chercher des motivations et il faut aller, permettre de tracer son chemin soi-même, s'aider de personnes qui se trouvent à droite ou à gauche du chemin. Mais tracer son chemin, c'est plus important.
On ne pouvait pas faire mieux comme mot de la fin. Merci beaucoup, Géraldine, de nous avoir rejoints pour cette belle discussion. Alors, pour les étudiants qui aimeraient peut-être rejoindre un master semblable au vôtre, ou en tout cas un petit peu plus s'informer sur le sujet, sur le site de la FMMS, donc fmms.fr, ils auront toutes les informations pour comprendre un petit peu comment approcher le métier. Merci encore, Géraldine, de nous avoir rejoints. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode de Attitude.
Merci, bonne journée.